20h02 et tout de suite retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 101.5 de Radio G. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein du collectif Génération Sport. Nous sommes ravis donc de parler de foot et notamment d'une victoire du SCO, enfin, depuis le début de la saison. On va forcément débriefer, on va forcément l'évoquer, puisqu'on a vu, en plus, on avait un envoyé spécial vraiment incroyable qui a porté chance aux Angevins ce week-end, et c'est bien sûr Faustin. Comment vas-tu, Faustin ?
Salut Florian, salut tout le monde, bah ça va. Après un tel match, ça va forcément bien. Si c'est pour voir ça plus souvent, je paierai mes places plus chères même.
C'est vrai qu'elles étaient déjà chères pour aller voir Saint-Etienne. Donc un match de bas de tableau, j'ai regardé les tarifs, c'était quand même assez élevé. Enfin, pour un match de bas de tableau du coup, ce week-end. Autre personne qui est dans le studio avec nous, à ma droite, c'est Mathéo. Comment vas-tu ?
Bonsoir Flo, bonsoir à tous. Et ben écoute, ça va très très bien. Très content d'être de retour aussi. On a eu un super week-end. Tu l'as dit, la victoire du SCO et puis le passage également du Tour de France féminin à Angers.
On a appris aujourd'hui.
Très content. On l'a su aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc c'est super. On va pouvoir débriefer ça aussi. Je crois que c'est prévu.
Est-ce que tu as, oui, c'est prévu. Est-ce que tu as couvert un de nos clubs ce week-end ou
pas? Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Ce week-end, c'était un repas de famille prévu depuis maintenant 3 mois. Donc j'y ai été. J'ai rien couvert du tout.
Ah. Bon, bah c'est pas grave. Ça, c'était. Par contre, il y en a un qui a couvert un sport.
Il a surcouvert
exactement. C'est notre retour à nous dans l'émission, notre grisou à nous. Comment vas-tu, Alex?
C'est gentil, c'est trop gentil. Même, le grisou, mais ouais, j'ai couvert le SCO Volley, donc ouais. Que vous avez reçu en début de saison.
Exactement.
Ouais. Donc voilà, la N2 féminine et la N2 masculine avec les deux équipes angevines, et on est sur une victoire et une défaite.
Exactement, on va l'évoquer puisqu'on a, bon, on va quand même révéler à nos auditeurs qu'on s'est croisés
exactement,
dans la salle. Donc du coup, on va pouvoir évoquer un peu ce qu'on a vu ce week-end dans nos clubs, enfin dans les clubs amateurs et notamment au volley. Le sommaire de l'émission, bah vous en avez l'habitude. Il y a donc le journal d'info local. On va évoquer forcément la victoire du SCO parce que bien sûr on va parler football. C'est la première victoire de la saison et ça, il y a quand même quelques enseignements à tirer dans cette victoire. Il y aura la pause musicale et il y aura aussi également un débat sur le Ballon d'Or parce que ça fait tant parler hier soir dans ce Ballon d'Or avec donc la victoire de l'Espagnol Rodri. Il y aura aussi, on va évoquer le Tour de France féminin, ce que ça va apporter un peu à la ville, mais aussi le Tour de France masculin parce qu'il y a eu le tracé qui a été dévoilé aussi dans la foulée de celui des femmes. Et on évoquera aussi avec toi Mathéo les infos internationales un peu à la volée sur ce qui s'est passé un peu dans le monde du sport international et national, parce qu'il s'est passé aussi des choses en Ligue 1 avec un petit classique dimanche soir dans la Ligue 1 française. On va commencer donc avec les infos locales, avec de la Coupe de France qui rime avec séance de tir au but dans le 49 avec le Fief GST, équipe de D2 qui s'est imposée face à Saint-André-des-Eaux, une équipe de R3, 0-0 au bout du temps réglementaire, 4-3 lors de la séance des tirs au but. Ils sont qualifiés pour le 7e tour, un club de D2 dans le 49, donc qualifiés pour le 7e tour de Coupe de France. Saint-André-Saint-Macaire contre Sablé. Bah, c'est incliné 5-0. Saint-André-Saint-Macaire, c'est également aussi un club de district contre Sablé, une équipe de N3. Donc malheureusement, pour eux, ça n'ira pas au 7e tour. Pelloye, équipe de R2 contre Vertoux, équipe de N3, 0-0. Et séance de tir au but aussi à la fin, 4-3 pour Vertoux. Malheureusement, Pelloye-les-Vignes ne verra pas le 7e tour. Et donc pour finir, bah là c'est aussi c'est une surprise, c'est pas dans le 49, mais c'est une équipe du 49 qui se fait sortir, c'est la SOC, le SO Cholet, qui se fait sortir au tir au but face à FC Saint-Philbert La Réorque, la Judonnière, voilà, 5-4 au bout de la séance des tirs au but. Le SOC qui se fait sortir, c'est quand même une petite surprise quand même pour l'équipe choletaise. En Ligue 1, bah, victoire d'Angers contre Saint-Étienne, mais ça on va l'évoquer un peu plus longuement dans quelques instants. 4-2 face au Vert. En volée, deux matchs, oui. Une victoire, une défaite. La nationale de féminine avait commencé par corriger Carpiquet 3-7-0. Et du coup, c'est Boulogne-Billancourt qui a battu le SCO, enfin chez les garçons, 3-7-0. Tu y étais, Alex. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette rencontre? Excuse-moi.
Pour la première, donc celle des filles, ça a été plutôt bien mené. Elles ont très très bien géré, je trouve, les temps faibles et les temps forts. Elles ont appuyé là où ça faisait mal à certains moments et du coup j'ai pu interviewer la coach. Elle a parlé vraiment d'une grosse force mentale chez ses joueuses, que ce soit même chez les remplaçantes. Donc on soit un groupe soudé qui a très peu de doutes, c'est aussi ce qu'elle disait. Voilà, une rencontre qui était vraiment maîtrisée face à un adversaire qui était pas simple non plus. Voilà, grosse satisfaction je pense pour les filles de remonter en plus sur le podium avant de défier donc Paris Saint-Cloud qui est deuxième du championnat. Et puis chez les garçons, bah c'était bon, voilà, le choc un peu des extrêmes puisque les garçons n'ont toujours pas gagné un match et puis Boulogne-Billancourt était invaincu avant la rencontre, 3-0. Là où ils se sont quand même bien battus face à une équipe du haut de tableau, c'est que il y a eu 2-7 accrochés 26-24. Le deuxième a été vraiment plus compliqué puisque bah ils prennent un 10-0, hein, il y a je crois qu'il y a 15-15 à un moment donné dans le set et puis ils prennent 25-15 au final. Rachel Bruyère qui est assez contente quand même de ses joueurs parce que ils se sont bien battus évidemment et puis elle m'a parlé du service notamment qu'ils ont bien travaillé cette semaine à l'entraînement. Donc voilà, il y a du taf quand même je pense pour la N2. Je sais pas ce que t'en penses toi Florian, je sais pas s'ils peuvent se maintenir.
Bah, le maintien va être très compliqué. C'est vrai que dans cette opération maintien, c'est un peu comme le SCO, c'est de prendre le maximum de points à domicile. Là, tu jouais en plus une équipe du haut de tableau de N2. Tu fais 2-7 accrochés, donc c'est bien. T'as des enseignements sur lesquels tu pourras t'appuyer à l'avenir, mais ça me paraît compliqué pour les garçons, pour les filles. Je suis assez surpris parce qu'on rappelle quand même que c'est une équipe qui monte de National 3.
Oui, c'est un promu.
C'est un promu avec 2-3 arrivées dans l'effectif, donc il faut quand même parfois du temps pour vraiment s'acclimater ou comprendre les systèmes. Et franchement, on voit une équipe qui progresse de match en match et c'est assez intéressant. Il y avait la défaite la semaine dernière contre Liévin à l'extérieur, mais il faut pas oublier qu'ils s'étaient déplacés avec 2-3 joueuses en moins, qui est quand même les joueuses majeures en plus de l'effectif. Donc clairement, je suis assez surpris et se dire que le maintien peut être assuré très rapidement.
Ok.
Voilà. Ça c'est.
Et les filles du coup sont en 3e division nationale, c'est ça?
Là, sont en 3e division nationale.
Et du coup, les gars, c'est 4e, la 4e.
C'est ça, exactement.
Ouais,
voilà.
C'est ce que j'avais vu.
Ouais, t'as l'élite au-dessus, mais c'est après t'as la première division chez les filles. Donc voilà. Mais à l'avenir, je sais que Salim Benani, donc qui était venu dans l'émission, le vice-président du club, nous en avait parlé avec aussi Rachel Bruyère, la coach. Ça peut être une des ambitions de faire peut-être évoluer cette équipe féminine vers le monde
professionnel
tout doucement bien sûr. En prenant son temps parce que faut pas brûler les étapes comme dans chacune des disciplines. Autre équipe mais autre discipline qui cherche aussi à progresser et à monter dans les échelons de ces divisions, c'est dans le rugby. Et par contre le SCO s'est incliné ce week-end avec une défaite à domicile contre Sucy 19-13. On rappelait que le SCO rugby s'était imposé sur ses 5 premières rencontres avec le bonus offensif. Petite défaite, mais le SCO reste premier. On va passer au basket maintenant avec deux résultats qu'on peut donner. Le premier, c'est Cholet, Faustin, qui s'est imposé face à Paris avec une très très belle rencontre.
Ouais, c'était un match important pour les Choletais qui affrontaient une grosse équipe de Betclic. Ils sont sortis 90 à 80, un match très plaisant et une très belle victoire de Cholet qui continue son beau début de saison.
Et pourtant, avec des joueurs qui étaient bons, ils ont quand même perdu l'un de leurs meilleurs joueurs la saison dernière, qui est parti du côté de la NBA notamment, mais avec des joueurs qui sont revenus, qui sont arrivés, et franchement, ça fait un très très beau collectif, en tout cas pour les Choletais. Par contre, bah voilà, en National 1, la grosse défaite.
La claque.
On fait un peu plus la tronche là. C'est l'EAB qui a subi une grosse défaite, 99 à 58 face à Quimper. Ça fait mal.
41 points, c'est ça.
Ouais, bah
si je calcule bien.
Plus 41. Ouais.
Ça, c'est désolant de voir un score comme ça. Ça fait mal. Faut se dire, c'était Quimper, c'est les premiers au classement. Ils ont perdu qu'un match pour l'instant cette saison. Ils ont gagné 7. Et Cholet est un peu dans le dur. Angers. Cholet, ça marche. Mais Angers est un peu dans le dur en ce début de saison. Ils sont 12e au classement sur 14. Ils ont bien joué, j'ai envie de dire, en Coupe de France. Ils sont malheureusement fait sortir, mais contre La Rochelle, un club de Betclic. Après ça, ils avaient gagné leur match contre Vitré, et là, ils prennent une grosse claque. J'espère que ça va pas les mettre au fond dans le moral, et qu'ils vont réussir à se relever de cette épreuve.
Voilà, c'est là, en tout cas, la volonté du coach Angevin, qui a parlé un peu dans la presse aujourd'hui, pour par rapport à cette défaite, et il a vraiment envie que ses joueurs se ressaisissent et reprennent un peu de mental pour la suite de la saison. Pour une suite de saison un peu compliquée aussi, on va parler handball. Je vais te regarder.
C'est compliqué. Hein.
Petite défaite pour le SCO handball, 34-26 face à Sarrebourg à l'extérieur. Du coup, pour eux, ouais. Ça reste toujours sur un seul point pris donc depuis le début de la saison avec ce match nul.
C'est ça.
Et c'est compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Bah là, j'en parlais du coup. J'étais venu il y a 4 semaines à peu près.
Ah, il y a un mois.
Toujours pas de victoire. Et là, il y a toujours pas de victoire. Il y a un match nul du coup. Sarrebourg qui est un candidat au maintien, enfin qui est un concurrent au maintien. Donc c'est vraiment une très mauvaise opération. Ça devient compliqué. Honnêtement, je suis pas encore allé voir le SCO handball au Hara, mais ça, franchement, c'est pas très rassurant toutes ces défaites qui se suivent. Derrière aussi, on sait que peut y avoir un cercle vicieux évidemment qui s'entretient quand tu perds comme ça. T'as très peu de confiance. Même si à l'époque j'avais parlé de la victoire en Coupe de France qui pouvait servir de point d'appui pour relever les têtes, mais là vraiment, je pense que on s'approche vers une saison galère, je pense clairement pour le SCO handball. On espère qu'ils vont pouvoir réagir. La défaite aussi contre Cournon il y a une semaine aussi, je pense ça fait mal parce que pareil c'est une équipe qui était je pense prenable. Je crois que c'était à domicile en plus, donc ça s'est joué en plus à pas grand chose. Donc déçu, et puis on a l'impression qu'ils ont jamais la main mise sur le match. Ils mènent jamais vraiment au score, donc. On espère du mieux, mais en tout cas, c'est pas gagné pour le maintien du SCO handball.
C'est vrai qu'Amaury, en plus, qui dans l'émission d'habitude, hein, qui n'est pas là, on le salue, comme Cédric aussi, qu'on salue également. C'est vrai qu'il nous avait parlé de beaucoup de pertes de balles du SCO, donc en espérant que ça va un peu s'enrayer. Et on espère aussi que la prochaine victoire ne sera pas en Coupe de France, parce que bon, la dernière, c'était en Coupe de France. Là, le prochain tour, c'est au mois de décembre contre Limoges. Donc on espère qu'il ne faudra pas attendre ce moment-là.
Qui est un club européen, donc c'est quand même pas rien. Même s'ils étaient encore en Pro League, tu vois, il y a 2-3 ans. Mais c'est un club qui est monté très vite. Et pour situer un peu aux gens, vraiment, c'est un club qui aujourd'hui joue la première partie de tableau sur la première division nationale. Donc ça va être un vrai choc des extrêmes. Ouais. Et on verra. Mais bon, ça sent pas très bon.
Ça sent pas très bon. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour le score de balle. Et s'ils veulent venir dans l'émission, nous parler de leur saison et reprendre un peu de positivité, de venir dans les studios pour parler de sport et reprendre un peu de force, et qu'ils viennent largement, on les accueillera avec plaisir. On va finir avec du hockey, le hockey sur glace avec la défaite des Ducs du côté de Bordeaux, hein, qui est en plus une polémique puisque le gardien des Ducs s'en est pris à l'arbitre, donc physiquement en plus, donc il a coincé l'arbitre entre sa personne et le plexi, donc. Donc voilà, et d'ailleurs je crois que les clubs et notamment les principaux acteurs de ce fait de match sont convoqués donc à la Ligue pour en discuter, et donc une défaite pour les Ducs qui recule un peu au classement. Il me semble qu'ils sont quatrième au classement donc de la Ligue Magnus. Et côté roller hockey, bah voilà, le SCO, enfin les Hawks d'Angers, je veux dire, mais sont toujours en tête du classement ex aequo, mais ils ont gagné 6-3 donc ce week-end contre Valence. On est toujours en pourparler pour les faire venir la semaine prochaine au sein de l'émission pour qu'ils viennent parler de leur discipline. Voilà.
Si je peux préciser pour le hockey sur glace, donc la polémique au niveau du gardien, donc Matthew O'Connor des Ducs d'Angers, il a été du coup suspendu finalement par son président.
D'accord.
À titre conservatoire, en attendant d'avoir plus d'éléments dans les prochaines semaines. Donc voilà, en tout cas le club a pris ses responsabilités pour le suspendre, parce que c'est vrai que c'est des images qu'on n'aime pas voir.
Ouais, et c'est assez rare de voir des clubs qui prennent d'abord les devants suspendre, et puis parfois ils attendent de voir un peu les sanctions, les commissions, ou quoi que ce soit, pour pas aussi s'handicaper, parce que là c'est un acte fort quand même. Tu te sépares de ton gardien.
Bah oui, c'est ça.
Enfin, tu suspends ton gardien pour les prochains matchs.
Alors que les Ducs étaient vraiment bien dans le championnat, quoi.
Ouais, c'est clair. Voilà. Donc on va voir un peu la suite. On revient sur du football. On va revenir sur notre actu local principal. C'est la victoire du SCO. Donc ce week-end, samedi après-midi, Faustin Tieté. On espérait tous un peu dans la conversation qu'on a entre nous que t'allais porter chance aux hommes d'Alexandre Dujeu, et finalement victoire 4-2. Et en plus on a des buteurs, on a Abdelli, on a Aoulou. Franchement, un but d'Aoulou, on s'y attendait pas. Nian qui continue alors qu'il était au placard en début de saison, voilà. Et donc Bamba Dieng qui nous a mis ce but aussi en fin de partie. Saint-Etienne qui marque avec un doublé de David Tachvili. Je sais que ça, c'est le genre de joueur que tu pourrais apprécier, Mathéo, parce que
je l'aime beaucoup malgré le fait qu'il joue à Saint-Etienne. Évidemment, ça fait quand même barrière à ce niveau-là.
J'allais le préciser juste après.
Oui, c'est un super joueur.
Bah ouais, exactement. Mais c'est les cellules de recrutement qui vont chercher ce genre de joueur. Je sais que ça te passionne toujours.
Bah ça me parle. Et puis c'est quelqu'un qui est quand même en France depuis longtemps, donc que je suis également depuis longtemps, vu qu'il était déjà à Bordeaux la saison passée. Donc voilà, là il a quoi, 5 buts je crois en Ligue 1. Il a mis un triplé contre Auxerre. Il arrive à lâcher des bonnes petites performances contre, alors certes des petits clubs de Ligue 1, mais ça crée de la confiance et après ça peut augmenter. Donc pour Saint-Etienne, je pense que c'est peut-être le seul point de satisfaction de ce début de saison.
Ouais. Bon, Faustin, qu'est-ce que t'en as pensé de cette partie scoïste, angevine? Allez, vas-y.
En première mi-temps.
Est-ce qu'il y avait du monde au stade déjà?
Ouais, ça m'a étonné. Déjà, quand j'arrive sur le parking, je me suis garé à Géant, c'était plein à craquer. Bon, peut-être aussi parce qu'on était un samedi des vacances, il y avait du monde dans la galerie. Mais ouais, j'ai dû me garer à l'étage. Je me suis jamais garé aussi loin du stade. Et une fois rentré dans le stade, bah, le match avait commencé depuis 10 secondes. Bah, il y avait du monde dans toutes les tribunes. Moi, j'étais dans tribune Coubertin. Ouais. C'était quasiment plein. Et ouais, ça faisait bien. Ça faisait du bien de voir ça à Raymond Kopa. Mais sinon, bah, dans le jeu, première mi-temps, on ouvre le score. De là où je suis, je vois pas très bien ce qui se passe, que c'est à l'opposé de moi, donc je vois des gens toucher la balle et je vois tout le monde crier et les filets trembler. Mais après, quand on voit le ralenti, c'est un magnifique enchaînement d'Abdelli dans la surface qui dribble un joueur et qui conclut magnifiquement sur la gauche du gardien, sur la droite du gardien plutôt. Mais sinon, je vous ai trouvé pas très dominateur dans cette première mi-temps, malgré le fait qu'on mène, on a subi beaucoup. Après, on prend ce penalty qui est bah, totalement mérité. Alors, il est arrêté dans un premier temps par Yaya Fofana, mais retiré. Sur le moment, on n'a pas la cause. Moi, je me dis que c'est sûrement Yaya Fofana qui part trop tôt. Mais en fait, non, c'est qu'il y avait trop de joueurs dans la surface au moment où le penalty est tiré. Donc, il est retiré, sachant que de toute façon, le SCO avait pris but sur l'action suivant le penalty. Donc, je pense que s'il n'y avait pas eu ce fait de jeu, ça aurait quand même peut-être eu but. Voilà. Ensuite, bah, mine de rien, il y a eu 8 minutes de temps additionnel aussi à la mi-temps. On ne s'attendait pas à autant. Même je comprends toujours actuellement pas pourquoi il y a eu autant d'arrêts de jeu. Je m'attendais plus à 4-5 minutes. Mais voilà, on est devant à la mi-temps, ça fait plaisir. On est vite égalisé.
Retour des vestiaires.
Retour des vestiaires, ça fait mal. Pareil, là, le SCO commence à tomber un peu. On se sent plus fragile. Et là, il y a le pénalty qui vient. On le transforme. Et là, on commence à rouler vraiment sur Saint-Té. On a plusieurs occasions. On a, je crois, il me semble, un coup franc assez avantageux qui passe à côté. Et jusqu'à cette délivrance à la 88e minute, il me semble, de mémoire.
Fin de match, ouais.
Ouais, une grosse gaffe du défenseur stéphanois surtout qui fait que Bamba Dieng se retrouve seul face au but et délivre tout le peuple angevin avec une exultation dans le stade. J'ai rarement vu aussi une telle ambiance dans le COP angevin. Franchement, je suis allé à plusieurs matchs importants. Je suis allé à Monté la saison dernière. Je suis allé à Lens au début de saison pour le retour en Ligue 1. Et là, vraiment, j'ai senti une vraie ferveur dans tout le stade. Tout le monde était debout. Tout le monde chantait. C'était vraiment un super match. Je pense j'ai pas peur de le dire, le meilleur que je suis allé voir au stade Raymond Coppa.
Oh bah dis donc,
pas mal.
Non mais c'était un match pivot, Mathéo. C'était le match à gagner et à aller chercher en cas pour vraiment lancer sa saison. Quoi.
Bah surtout après les points que t'as perdu à Toulouse, parce que moi j'étais pas là pour en parler la semaine dernière, mais je l'ai vu le match contre Toulouse. Des regrets, il y en a beaucoup, hein, ouais. Notamment bah, après ce penalty Abdelli qui se rattrape aujourd'hui, c'est un super but avec de la réussite. Il y en a eu beaucoup hein, dans les buts angevins. Faut dire ce qu'il en est aussi.
Il en faut parfois aussi.
Il en faut la performance d'Abdelhamid. Waouh, le gars il est capitaine de Saint-Étienne et il te sort une performance aussi minable. C'est assez triste franchement.
Mais sur une fin de carrière, je pense.
Oui, je pense. Moi ça me fait penser à Outonji, donc c'est un peu dur à ce niveau-là.
Outonji est plus jeune quand même. Et a moins de références que.
C'est vrai. C'est vrai aussi. Non, c'est difficile franchement. Après de notre côté on peut que être content. C'est un match référence pour même quasi tout le monde sur le terrain. Franchement, il y a que deux joueurs, moi j'ai noté, qui ont été un petit peu en dessous. Je dirais peut-être Aoulou, même s'il est buteur, son bagage technique sur la rencontre, il a pas été le même que notamment contre Toulouse où il avait été plutôt bon, j'ai trouvé. Et puis Almelali, même si c'est lui qui nous libère techniquement puisque c'est lui qui prend le penalty. Voilà, sinon je voudrais m'excuser auprès d'Ibrahim Agnan. voilà, j'étais assez sceptique sur son retour hein, ouais. Très franchement, et en même temps c'est logique. Ibrahim Agnan, honnêtement, c'était un bon joueur à Metz il y a 3-4 ans, et puis c'était un petit peu perdu. Là il se retrouve, c'est intéressant, 2 buts sur les 2 derniers matchs. Voilà, il y a beaucoup de positifs qui ressortent, même au niveau des latéraux, je pense à ça. C'est vrai que nos latéraux sur les dernières rencontres, c'était un petit peu là où ça pêchait, parce qu'on avait une défense centrale qui était plutôt cohérente. D'ailleurs, je pense qu'on a trouvé nos 2 centraux pour la saison. Par contre, les latéraux, ça pêchait souvent, et là, honnêtement, ça a pas été un match flamboyant non plus. Ils ont pas réussi à contenir toutes les attaques stéphanoises. Par contre, ça a été plus cohérent que d'habitude, et ça, c'est plutôt plaisant. Ouais.
Alex, ton point de vue sur cette rencontre?
J'ai pu un peu regarder. Fallait rentabiliser l'abonnement d'Azone.
Oui, tu l'as toujours du coup.
Oui. Tant qu'ils ont pas coulé, je paye 20 balles par mois. donc j'ai pu regarder le match. Franchement, oui, très efficace. Donc, franchement, ouvrir le score aussi rapidement, ça te permet quand même d'aborder le match complètement différemment. La qualité technique d'Abdelli sur l'action, c'est quand même assez dingue. Le sang-froid qu'il faut, c'est vraiment super. Le penalty, c'est vraiment une scène où on comprend pas trop ce qui se passe, hein. Parce que l'arrêt est très beau, il y a Fofana. Derrière, il y a une trajectoire de balle un peu flottante, lob, le ballon rentre, mais du coup, on sait pas trop pourquoi il retire le penalty, puisqu'il y a but pour Saint-Etienne. Mais donc.
C'est parce qu'il y a des joueurs qui sont rentrés sur.
Ouais, ça, mais les deux, du coup, des deux équipes.
Ouais, des équipes.
Okay. Ah oui, ok.
Bah, j'imagine, parce que je crois, j'avais entendu que c'était que les joueurs angevins, donc c'est pour ça que j'avais pas tout compris. Mais en tout cas, belle réaction après sur le 2-1, le 2-2 qui est un but très beau mais à la fois qui est contré. Donc voilà, un peu de réussite pour les Stéphanois. Comme tu disais Faustin, c'est vrai que les Stéphanois ont quand même eu pas mal d'occasions aussi quand même. Ils ont été assez dangereux. Et puis après le penalty qui fait quand même beaucoup de bien. Ibrahim Agnan qui se met quand même en confiance aussi, je crois que c'est son premier but en Ligue 1, il me semble.
C'est son deuxième.
Il avait marqué
contre Toulouse.
Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis après Dieng qui profite d'une erreur stéphanoise. Franchement, ce qui fait plaisir justement, je parle des numéros 9, on a quand même connu une saison un début de saison de galère à ce niveau-là, parce qu'on avait un vrai trou avec Unou et Diony donc en réserve et en conflit avec le club et Sidiki Chérif qui arrive à 17 ans qui est propulsé titulaire pour les premières journées de Ligue 1. Je connais pas forcément le potentiel du joueur, mais c'est forcément compliqué, on lui tiendra pas rigueur d'avoir parfois peut-être été moins influent que ce qu'on a pu voir là récemment. Et donc ça met en confiance, donc tu as deux numéros 9, Bamba Dieng qui a aussi connu un début de saison un peu plus galère, Nian qui on le disait était au placard complet dont on voulait plus entendre parler, qui marquent tous les deux. Donc là, c'est vraiment intéressant. Nian fait un travail, c'est vrai, un peu invisible sur notamment les buts, et qui est vraiment intéressant. Après, voilà, je sais pas encore si ça va être le numéro 9 qui va nous mettre 10-15 pions pour nous maintenir, mais ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, ouais, ça a été une partie rondement menée. La défense centrale m'inquiétait quand même un peu des fois. Sur 2-3 situations, on sent qu'il y a un manque de fébrilité, mais bon, ça reste quand même solide, hein, puisqu'ils ont fait quand même plutôt un bon match. Et Fofana qui est toujours aussi bon, même s'il prend 2 buts. Donc voilà. Franchement, une très bonne partie. C'est une victoire qui fait plaisir, mais qui est aussi là où c'est satisfaisant, c'est que le match aurait pu partir dans un autre sens. Oui. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas volé si Saint-Etienne gagne.
Non.
Mais c'est aussi la force mentale, la Dallangevine comme on dit, qui fait que on réussit à s'en sortir. Et c'est une victoire qui est pour moi très très importante. Tu parlais d'un match bascule, pour moi c'est un peu ça, parce que si on perd, franchement c'est déjà on a un pied dans la Ligue 2 quoi.
Si tu perds, t'as Saint-Etienne qui a 10 du coup et Esco qui a 4.
Là la première opération c'est que tu Montpellier a perdu. Ouais. Du coup Saint-Etienne a forcément perdu et puis tu reviens
le Havre aussi
et tu reviens en dehors de cette fameuse zone de réaction.
T'es 15.
Mentalement, je pense que tu cogites un peu plus positivement.
Tu joues Monaco vendredi.
Oui, ça enchaîne
Monaco-Paris.
Après, je crois qu'il y a 2 concurrents pour le maintien et après, ça enchaîne avec 2 grosses équipes.
On va regarder ça, mais c'est vrai que le match à venir contre Monaco, même si, attention, hein, le dernier match, comment dire, un vendredi soir comme ça, contre une équipe de tableau.
Sud.
Du Sud, exactement. Voilà, ça a été quand même beaucoup plus. Ça a été une surprise. Donc,
inattendu, oui.
Ah, c'est inattendu, exactement. Donc, tu joues Monaco-Paris, puis après, tu joues 3 petites équipes.
C'est ça.
Tu joues Auxerre, Le Havre et Lyon.
Ah,
j'ai fait exprès.
Pour moi, il y en a deux sur ça, j'ai pas compris. Je me dis, pourquoi?
Non, mais c'est important, voilà. C'est Faustin qui le disait la semaine dernière, de prendre des points, de capitaliser contre les équipes qui sont dans ta zone, quoi.
On sent qu'il va y avoir vraiment 2 championnats sur cette saison.
Mathéo.
Bah oui non, puis même sur les prochains matchs qu'on a là, donc Monaco et Paris, c'est des fausses rencontres, j'ai envie de dire, dans le sens où Alex, c'était intéressant ce que tu disais par rapport à la défense centrale. Faut quand même pas oublier que de métier le fort, il est latéral droit,
oui,
et que Biumla, il a 18 ans. 19 ans, il vient d'arriver de Bordeaux, c'est quelqu'un qui a jamais joué en Ligue 1, qui a fait quelques matchs en Ligue 2, donc je pense que pour apporter une certaine cohérence à ton effectif et à ton 11, parce qu'en plus en parlant de numéro 9, je pense qu'on l'a peut-être trouvé sur les 5 derniers buts du SCO, il est sur les 4, que ce soit en termes de passe D à l'origine ou en termes de but. Donc du coup, je pense que ces matchs-là, ils vont permettre de peut-être plus souder un effectif qui est déjà intéressant. Hein.
Ouais.
Le SCO a perdu une fois, pardon, sur les 6 derniers matchs. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est des rencontres importantes. Et puis après, contre des candidats au maintien, bah oui, il faut que tu fasses quelque chose. Ça, c'est obligatoire. Et le SCO, pour l'instant, a su faire globalement le job.
C'est vrai.
Même contre des équipes contre Strasbourg, où tu vas chercher un point avec la manière en plus. Non, franchement, moi,
tu vas chercher un point en Vélodrome.
Ouais, en plus, oui.
Ça, là où peu d'équipes vont réussir à prendre un point en Vélodrome,
surtout
qu'il y a tes concurrents directs, quoi.
Bah, surtout tes concurrents directs, ils ont pris des valises. Montpellier en a pris 5 là-bas aussi. Donc,
Mais moi, pour revenir sur les joueurs, j'ai beaucoup mieux aussi les matchs des deux ailiers, donc El Melali et Alavina. En tout cas, on sent un potentiel. C'est pas un match complet. Il y a des fioritures, mais on sent qu'il y a un vrai potentiel. Et quand on sait aussi qu'il y a Ferrat je sais pas s'il était dispo ou pas sur le match, mais franchement, sur les ailes, on sent aussi qu'on veut aller sur ce point de vue-là, qu'on veut un attaquant qui reste plus quand même dans la surface. Et on sent le début d'une cohérence qu'on avait peut-être pas au début de saison.
Ouais, il est peut-être en train de trouver son 11 du jeu tranquillement, doucement.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, tes ailiers, c'est pas vraiment des purs ailiers qui vont coller la ligne. Donc en plus, ça te permet de couvrir pas mal de surface en restant central et en permettant à ton 9 d'être juste un renard. Et Nian le fait bien.
El Melali et Alevina aiment rentrer un peu plus dans l'axe plonger.
C'est des joueurs explosifs.
Comment El Melali provoque le penalty, c'est il est en plein milieu, il a pris l'axe sur une contre-attaque et voilà, il se fait charcler dans la surface.
le bon tacle défensif que Faustin apprécie. D'ailleurs, Faustin, on va faire une petite pause avec toi sur Génération Sport. On va parler de la suite de la Ligue 1, parce qu'on va quand même évoquer ce petit classique qui a eu lieu dimanche soir avec rouge ou pas rouge. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Faustin, qu'est-ce qu'on écoute?
On va s'écouter Sans Plug de La Fève tout de suite sur le 101.5.
J'ai toujours la dalle, ma gueule. Les petits, ils aiment trop ça, attention. Ils aiment trop quand t'as la dalle, quand t'es en bas. Yeah, yeah. Ils me disaient tous, tu vas faire quoi sans plug? C'est qu'ils font rien, eux, mais rien que ça joue les thugs. J'ai mis du Casamigo dans le cup. J'suis parti, j'ai laissé maman en... J'suis parti, j'ai laissé maman en pleurs. T'es une salope, toi, tu fais tout pour plaire. Je parle que en fax, mais tu dis le contraire. J'ai fait trois fois le tour de la ville avant de faire en... Là d'où j'viens, ça peut te faire en dansant. La voisine se plaint de l'odeur de l'encens. Les neveux demandent le prix de l'encens. Cette batte, ils pensaient qu'on allait finir ensemble. Mais on va juste se voir une ou deux fois en bas. Sauf que n'est pas la haine à venir pensant. Problème de conscience, problème de vocabulaire. Maintenant, j'vois l'argent comme un pansement. Ils me disaient tous, tu vas faire quoi sans plug? C'est qu'ils font rien, eux, mais rien que ça joue les thugs. J'ai mis du Casamigo dans le cup. J'suis parti, j'ai laissé maman en... J'suis parti, j'ai laissé maman en pleurs. T'es une salope, toi tu fais tout pour plaire. Je parle que en fax, mais tu dis le contraire. J'ai fait trois fois le tour de la ville avant de faire. J'ai perdu tellement de gars, ça me laisse des insomnies. J'suis un rapacé à qu'un seul nid. J'ai des dossiers, tu reconnais ou tu nies. Parfois j'ai du Nike, mais je suis plein à un dit. J'ai jamais suivi le troupeau, suivi le mouvement. Tu m'as dit t'as oublié mes chaînes, t'y penses tout le temps. J'voulais un peu, on m'a juste dit, fous le camp. Et mes chaînes, je vois d'où. Parle mal, tu vas manger ta douille. J'fais des petites blagues pendant la fouille. Parce que je les avais redaf patrouillés. Et qu'ils m'ont pas vu magouiller. Ils m'ont déclaré, mais j'ai trop d'enfants. La concurrence paye encore en francs. J'ai donné mon cœur aux plus offrants. J'bosse ça, j'suis encore souffrant. On est pisté. Y'a les ventes de les aisés, les huissiers. Les clubs c'est offert, c'est un bon épicier. Putain, j'suis toujours pas au même quand j'vais pisser. Ça va être un putain de polar, mon roman. Trop saoulé, ne me demande plus c'est comment. Pensez étirer d'affaires, mais ça recommence. Pensez étirer d'affaires, mais ça recommence. Ils disent tous, tu vas faire quoi sans plug? J'sais qu'ils font rien, eux, mais rien que ça joue les thugs. J'ai mis du Casamigo dans le cup. J'suis parti, j'ai laissé maman en... J'suis parti, j'ai laissé maman en pleurs. T'es une salope, toi, tu fais tout pour plaire. Je parle que en fac, mais tu dis le contraire. J'avais trois fois le tour de la ville avant de traire. Là d'où j'vais, ça peut te faire en dansant. La voisine se plaint de l'odeur de l'encens. Les neveux demandent le prix de l'encens. Cette batte, ils pensaient qu'on allait finir ensemble. Problème de conscience, problème de vocabulaire. Maintenant, j'vois l'argent comme un pansement.
Sans plug de La Fève dans Génération Sport, vous êtes sur le 101.5, on salue la team Espagne du Collège Jeanne d'Arc, forcément, voilà, une petite dédicace pour celles et ceux qui m'ont accompagné pendant une semaine à Barcelone. J'ai eu cette chance avec ce temps magnifique.
Et, le Camp Nou
j'ai pas vu le Camp Nou.
Ah, il est en travaux.
Il est en travaux. Ah, oui. On a fait le stade de Mandjouk, l'actuel stade de Barcelone, qui est pas mal. Ouais. Qui est pas mal. J'avais plus d'émotion pour le stade pour de Mandjouk que le Camp Nou parce que Marie-José Pérec.
Voilà. Oui, Barcelone 92.
Ouais, Barcelone 92. J'étais plus là-dessus que mes élèves qui étaient plus sur le côté Barcelone quoi. Donc, donc voilà. Mais bon, c'était un beau moment en tout cas. On va rester sur la Ligue 1 avec Monaco. Enfin Monaco. Non, on va quand même évoquer l'ensemble des résultats de Ligue 1 vendredi soir. Rennes qui s'est imposé 1-0 face au Havre. On en parlait un peu en off là juste avant pour les concurrents directs au maintien pour le SCO. Le Havre en plus qui a fini à 10, problème d'arbitrage, Didier Digard à la fin du match expliquait qu'il avait plus forcément envie de croire les arbitres et il va faire son taf de son côté maintenant. À 17h c'était Angers Saint-Étienne 4-2, à 19h c'était Brest qui s'est imposé à Reims 2-1. Malheureusement pour moi, Lille s'est imposé 2-0 dans le derby à Bollaert.
Aïe aïe.
Exactement, ça fait mal. Lyon Auxerre 2-2. Là aussi une petite polémique sur une sorte d'arbitrage.
Oui.
Enfin, ouais.
Les deux Lyonnais ont haussé les sourcils.
Franchement, elle est dure.
Je comprends plus rien. L'arbitrage, je pense qu'on va en faire un jour un sujet parce que là, il y a des choses que je ne comprends pas.
L'interprétation au niveau des coachs.
Et penalty, non?
Ah oui, bien sûr.
Penalty, mais je comprends pas pourquoi les Auxerrois ont autant.
Non, mais la dernière fois qu'on a vu ça en Ligue 1, c'était quand concrètement? Est-ce qu'on a déjà vu ça en Ligue 1? Un coach qui rentre au vestiaire pour une décision arbitrale qui n'est même pas mauvaise.
Non mais tu vois, problème vendredi soir entre Rennes et Le Havre, problème entre Lens et Lille, parce que c'est pareil, il y a un problème de VAR avec ce penalty accordé aux Lillois avec cette main de Danso. On nous explique que dès que le ballon touche une partie du corps maintenant et qu'elle retouche la main derrière, il n'y a pas penalty, et là il y a péno. Donc difficilement compréhensible. Problème à Lyon entre Lyon et Auxerre. Nice-Monaco 2-1 pour les Niçois aussi dans le derby. Toulouse s'est imposé 3-0 à Montpellier. Bon là ça va complètement mal pour Laurent Nicolin et je pense que le karma rattrape clairement Laurent Nicolin avec toutes ses déclarations l'été dernier.
C'est plus que le karma. Hein. Quand tu vois l'équipe, l'effectif, même les coachs que t'as, les deux que t'as eu cette saison, c'est plus que du karma qu'il faut pour
ils
te faire chuter la dernière fois.
Entraîneur retraité, pour vous dire.
C'est Jean-Louis Gasset, quoi.
Qui avait annoncé sa retraite il y a 3 mois.
Ouais, il a pas assez cotisé, Gasset.
Strasbourg s'est imposé 3-1 face à Nantes et on parlait de problème d'arbitrage, on va l'évoquer, pour vous problème pas problème, faute pas faute, rouge pas rouge, on ne sait pas. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 au Vélodrome, 3-0 en première mi-temps en plus et donc cette expulsion d'Amin Harit sur ce pied haut en direction de Marquinhos, Matteo, rouge ou pas rouge?
Ah bah pour moi c'est rouge. En vrai, j'arrive même pas à voir globalement où est la polémique dans le sens où c'est une action ultra dangereuse et concrètement quand c'est très dangereux comme ça, t'es obligé de mettre rouge. Même si la finalité c'est pas un joueur qui va à l'hôpital et qui sort du terrain avec une trace de crampon ensanglanté sur le torse, tu vois. Donc non pour moi il est indiscutable ce rouge même s'il le voit pas. Concrètement c'est compliqué de mettre juste un jaune, surtout qu'en plus c'est une action qui est impressionnante. Ouais. Visuellement à voir c'est quand même compliqué, t'as tout de suite peur, donc je pense que l'arbitre aussi ça lui est arrivé, faut prendre en compte aussi que les arbitres sont humains tout simplement,
bien sûr.
Donc non pour moi c'est rouge tout à fait normal et légitime. Ouais.
Faustin, est-ce que t'as vu l'action?
Ouais j'ai vu l'action et je suis assez mitigé sur la couleur du carton. En tout cas si c'est un jaune, c'est un jaune orangé, on va pas se mentir là parce que la faute est exceptionnelle, mais c'est le début du match. Il me semble que Amin Harit n'avait pas été du tout averti à ce moment-là. Et des actions comme ça, on a vu, je pense déjà dans le football, où ça n'a pas mis carton rouge. Je l'ai pas bien vu à vitesse réelle. Il me semble que je l'ai vu que ralenti, surtout avec l'interview d'après-match de l'arbitre.
De Monsieur Le Texier.
Ouais, voilà. C'est top aussi. Je trouve qu'un arbitre prenne le micro à la fin d'un match pour expliquer ses décisions. Mais j'avoue, j'arrive pas à donner mon avis, à trancher sur une couleur de carton. Mais c'est vrai que j'irais plus sur un jaune très très orangé ou prochaine intervention, prochaine faute, c'est dehors.
Alex,
pour moi c'est compliqué quand même de siffler rouge déjà à ce niveau-là du match. Même si évidemment les fautes, c'est les fautes. Hein. Lyon a bénéficié d'un carton rouge contre l'OM il y a quelques semaines. Ce qui est compliqué, c'est que il le voit pas forcément, donc il y a un côté involontaire. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a la trace de crampon qui fait la différence. Donc, moi, ça me paraît compliqué. Ce qui est surtout compliqué, au-delà de l'interprétation ou pas, je pense que c'est vrai que c'est un peu, entre guillemets, 50-50 pour certains, c'est qu'il n'avait pas à voir la VAR. Je pense que c'est ça qui a fait polémique, notamment chez les supporters marseillais. C'est que dans une action comme ça, où justement ça se joue un peu au centimètre près, parce que s'il touche pas sa poitrine à ce point-là, il y a clairement pas rouge. Et donc ça, et aujourd'hui, l'arbitre peut pas le savoir, même si la VAR lui dit des choses, mais c'est à lui de prendre la décision d'aller voir. Donc je pense que c'est ça qui fait débat. Moi, j'avoue que je l'aurais pas donné. Je pense, comme dirait Faustin, jaune orangé. Bien orangé, mais il y a un côté involontaire, l'action qui suit son cours, et puis on a vu des jaunes pour plus grave que ça, ouais. Donc voilà. Et je pense à Nigel de Jong à une grande époque, qui avait pris un jaune je sais plus quel joueur c'était.
Il a mis le pied.
C'était jaune.
Ouais, c'était Xabi Alonso. Pour vous dire. Je crois que c'était
Xabi Alonso.
C'était Pays-Bas espagnol.
C'est ça, parce que du coup Max, qui est supporter marseillais, m'a rappelé ça avec toute sa mauvaise foi évidemment, qui m'a dit ça, c'est un scandale. Bon, bah, écoutez.
Enfin, moi personnellement, je me range du côté de Matteo, je mets rouge. Yes. Je mets rouge parce que ce geste-là en fait est quand même assez incroyable, je veux dire dans le mauvais sens du terme. Et je mets encore plus rouge et je suis content parce que l'arbitre a été après faire de la pédagogie.
Ouais,
et ça c'est cool. Et franchement, je milite pour que vraiment tous les week-ends, à chaque match, les arbitres viennent expliquer un peu les actions litigieuses ou leur point de vue, qu'il y ait une conférence de presse et que l'arbitre passe aussi sous le feu des questions des journalistes. Après, il faut qu'ils soient entraînés aussi à répondre à tout ça, mais je pense que faire preuve de pédagogie et expliquer à tout le monde, là en plus lui il a clairement l'image enfin que nous on n'a pas en fait tout de suite quoi, tu vois, on n'a pas la vision de la plaie ou des crampons d'Harit sur Marquinhos. Lui il le voit. Après je pense que à l'oreillette on explique à monsieur les textiers que bah on va du coup bah on le déjuge pas. Ah ouais. On lui explique, ah, va quand même voir, non. Là, on lui dit, écoute, nous, sur les images qu'on a, tous les angles qu'on a, bah, écoute, on estime qu'il y a carton rouge, donc, voilà. Après, c'est sûr que ça change la physionomie du match. Ça change complètement la physionomie du match.
Oui et non. J'ai envie de dire, parce que oui, clairement, en fait, parce que, en tout cas, quand tu regardes ta télé, tu dis, bon, bah, il y a 1-0, il y a carton rouge, bon, c'est fini. Mais, d'un autre côté, le PSG avait très, très bien commencé.
Bien sûr.
On sentait aussi qu'ils allaient aussi dérouler. Donc oui et non.
Ouais. Et je vais même rajouter un truc pour aller dans ton sens aussi, c'est que on oublie que l'année dernière le Paris Saint-Germain se fait expulser Beraldo.
Oui c'est vrai.
Au Vélodrome pour une action tout aussi litigieuse, voilà. Et au final 2-0 pour le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Donc comme quoi être à 10 dans un classique peut te permettre quand même de le remporter à la fin.
Oui, par contre,
et la prestation des Marseillais, Matteo, je veux dire bon.
Que dire déjà dans le comportement, c'est assez horrible. Moi j'ai bien aimé ce que l'équipe a fait le lendemain, c'est-à-dire qu'ils ont mis un 1 à Greenwood. Clair, net, direct, parce que le comportement c'est pas possible. Après le PSG a très bien joué. Moi j'ai beaucoup aimé la performance notamment de Pacho qui a effacé totalement Wai sur les
45 premières minutes.
Ouais,
sur les 60
premières. Au moins la première mi-temps. Donc non, je pense que c'est un résultat logique. Maintenant c'est plutôt frustrant ce genre de résultat, je trouve, parce que Paris cette année a l'air atteignable. De ce qu'on voit en Ligue des Champions, de ce que parfois tu peux voir en championnat, tu peux dire que Paris cette saison, bah peut-être que ça va pas finir champion, peut-être que tu peux aller gratter des points contre cette équipe-là, et là tu mets 3-0 à une équipe de Marseille qui était peut-être la deuxième plus belle équipe cette saison, ou la troisième, parce que Monaco également fait un début de saison hyper intéressant, hyper prometteur. Donc je trouve ça dans un sens dommage quand même, le fait de voir que Marseille prend 3-0 comme ça, quoi.
Une réaction encore sur ce match, les garçons, ou pas ?
Je corrobore totalement ce que dit Matteo. C'est vraiment frustrant quand on est suiveur de Ligue 1 de voir de voir en plus Monaco qui perd ce week-end, de voir que t'as un choc au sommet entre des équipes qui pourront peut-être jouer le titre et qu'on a un 3-0 au bout de 40 minutes. Franchement, c'est assez rageant. Comment ça s'explique, je sais pas trop. Je pense que clairement le PSG reste au-dessus malheureusement, mais ça donne une frustration. Qui je pense rend un petit peu fou, parce que en plus le PSG derrière en Europe n'est pas forcément convaincant, et du coup on met de côté le suspense en Ligue 1 pour une équipe forte en Europe, mais au final en Europe, même s'il y a une demi-finale l'année dernière, voilà, ça fait un partout contre le PSV Eindhoven en montrant un visage qui est vraiment pas fou. Donc voilà, c'est un peu décevant, mais on espère quand même que c'est pas fini. Peut-être qu'il peut y avoir de belles choses, mais en tout cas, si je me place du côté parisien, cette rencontre quand même me rassure.
Ouais.
Parce que t'es attendu, t'as des joueurs qui répondent présent, et t'as mis un carton à la fois à ton rival et à la fois à un concurrent direct. Donc si je suis parisien, honnêtement, je suis très content de ce match.
Et autre visage qui n'a pas forcément été au rendez-vous côté marseillais, et pour ne rien vous cacher, j'ai dû regarder les matchs sur un lien américain. Voilà, pour essayer d'avoir un...
Faut pas lire.
C'est pas très grave, hein, on va trouver un lien en streaming sur un lien américain. Et c'est vrai que ça a surpris quand même pas mal les journalistes américains de voir les supporters marseillais quitter le stade rapidement.
Par contre, c'est vrai que c'est...
C'est
marquant quand même.
Je pense que la déception, le 3-0 les a tués complètement, et ils s'étaient survendus eux-mêmes de leur côté peut-être le match, en espérant mettre cette claque au Paris Saint-Germain, ce score inverse, quoi. Et là, malheureusement, on voyait vraiment des grappes de supporters partir, quoi, quitter le stade vraiment à la mi-temps. Donc,
moi, je comprendrais jamais ça. Franchement, tu mets ta place à ce prix-là et tu pars à la
mi-temps. Surtout un classique. Et en sortie de stade, il y avait des journalistes qui interviewaient, donc on a vu ça le lendemain après sur les réseaux, même sur différents médias français, des personnes qui quittent le stade alors qu'ils ont fait 5-6 heures de route.
C'est
assez incroyable comme vision. Bon, en tout cas,
chacun la sienne.
Chacun la sienne, exactement. Eux avaient fait le déplacement pas comme un club. On va parler maintenant Ballon d'Or, qui ne s'est pas déplacé hier. Oui. Voilà, la transition est un peu.
Ah, c'est une transition, hein. belle transition.
Mais c'est professionnel. C'est un professionnel.
Comment?
Qui a aussi perdu son classico par ailleurs.
Exactement. On aurait pu faire la transition comme ça aussi. Bravo Faustin. C'est vrai qu'une belle claque aussi pour les merengues, comme on dit. Donc 4-0 pour Barcelone. On va le rappeler quand même contre le Real Madrid avec un doublé de Lewandowski, un but de Lamine Yamal et le dernier, je l'ai
pas. Rafinha.
Rafinha, exactement. Ouais. Qui marque ce but pour Barcelone contre le Real. Mais bon, le Real a doublement perdu parce que hier soir, il s'attendait jusqu'à il y a 48 heures, il s'attendait à être sacré Ballon d'Or, Vinicius Junior et non. Le foot mondial en a décidé autrement en donnant ce Ballon d'Or à Rodri. Quel est votre avis sur ce Ballon d'Or, Mathéo?
Bah, c'est assez compliqué comme Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à dire. C'est assez compliqué, on va dire. Je trouve que c'est pas non plus volé dans le sens propre du terme, parce que sur le plan comptable, on va dire, Rodri, il a gagné la Première Ligue. Il a sans doute été peut-être le meilleur joueur de City cette saison. Il remporte l'Euro. Il finit meilleur joueur de l'Euro. Alors, par contre, en tout cas, je trouve, en n'étant peut-être pas le meilleur joueur de l'Euro, ni même le meilleur joueur de sa sélection, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, en fait, si tu regardes uniquement les titres individuels et collectifs, oui, pourquoi pas. Dans les faits, c'est un peu autre chose. Et puis, surtout, le Ballon d'Or, normalement, c'est une institution qui désigne le meilleur joueur de l'année. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, quand on regarde Rodri, on voit un mec, un game changer? Concrètement.
Oui. Bah oui. Moi, je le vois, oui.
Oui, mais est-ce que c'est le meilleur joueur
du monde?
Pas de
la même manière que d'autres personnes, oui. C'est sûr. Mais
c'est-à-dire que est-ce que c'est réellement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, Rodri?
Il est blessé en plus.
En plus. Alors ça, j'ai kiffé l'image.
Il est en béquille.
Ça, en béquille. Par contre, par rapport au surplus de match, ouais, non, mais ça c'est très,
oui, mais
très bien.
Ça envoie un signal aussi. C'est pas mal. Je pense qu'on a beaucoup de débats.
Ah oui,
à faire,
je pense. non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ouais.
C'est clair, exactement sur le foot en général, mais. Alex, toi, ton avis sur ton œil sur ce Ballon d'Or espagnol.
Déjà surpris, parce que je pense qu'on est tous surpris, parce qu'on s'attendait tous à Vinicius. Il y avait beaucoup de bruit
de couloir.
Ouais, ça, beaucoup de bruit de couloir qui allait dans ce sens. Même si du coup, France Football a vraiment restreint le nombre de personnes qui savaient. Je crois qu'il y en avait que deux avant la cérémonie. Donc
ils ont mis la pression, le Real, pour savoir. Hein.
Et du coup ils ont su un petit peu parce qu'il y a quand même eu des rumeurs quelques heures avant. Et franchement, ouais, très surpris. Honnêtement, moi, si tu me demandes mon avis, j'aurais donné quand même à Vinicius. Maintenant, Rodri, c'est pas un vol. Il y a certains qui parlent de vol. J'irai pas jusque là. Parce qu'il fait quand même une saison quand même très très forte. Mais pour moi, Vinicius est quand même au-dessus. Il y a tellement de choses qui sont marquantes chez lui, surtout son parcours en Ligue des Champions qui est vraiment impressionnant, la Liga aussi où il a été quand même monstrueux. Donc honnêtement, Rodri, franchement, ouais. Mais puis même, j'aurais mis dans cette vibe de changer un peu des attaquants, j'aurais peut-être mis un Carvajal que j'ai trouvé très fort en finale de l'Euro, buteur en finale des Champions.
Et Bellingham aussi, hein,
qui... Et Bellingham, ouais, aussi,
troisième.
Je tenterais même Rodri en 4, hein.
Moi, je le mettrais 5. Hein.
Ouais, voilà ça.
Moi, je le mettrais 5 parce qu'on oublie un joueur qui a fini 9e, Toni Kroos, qui sort quand même d'une saison exceptionnelle et d'un Euro qui était vraiment excellent aussi.
Hein. Ça aurait été beau pour l'image de le voir gagner après sa retraite un Ballon d'Or, c'est sûr.
Bah oui.
Faustin ?
Moi, je suis à peu près d'accord avec tout ça, mais je suis surtout d'accord avec le fait de mettre Carvajal plus haut parce que lui, il a pour le coup.
Il finit 4e.
Ça, pour le coup, lui, il a vraiment tout gagné. Et il fait peut-être une des meilleures saisons de sa carrière. Alors certes, il marque pas des buts, il fait pas 10 000 passes D, mais dans le travail de l'ombre, il est là, il est toujours présent avec le Real depuis des années en plus. Ça aurait été pour lui aussi une très belle récompense, je pense, de gagner ce titre.
Blessé également.
Blessé également.
Et triple blessure pour lui en plus. Ah ouais. Elle est horrible, sa blessure.
Mais à mon avis, il aurait tout à fait mérité de remporter ce Ballon d'Or. Et un autre point que j'ai vu passer sur plusieurs médias qui disent que si le Ballon d'Or se joue sur un aspect de fair play.
De respect.
Ouais, voilà ça. Et Vinicius, on sait qu'il aime bien parler sur le terrain.
Provoquer.
Ça marche que quand ça leur arrange.
Franchement, fair play. Il y a fair play.
L'année dernière, tu fais gagner Messi. Est-ce que Messi, il a eu un comportement exemplaire
D'accord, Messi, mais surtout Emilio Martinez chez les gardiens.
En plus, oui. Bon, puis même Rodri, on a revu des images après, notamment dans le match contre Arsenal, où il n'est pas exemplaire non plus.
Ouais,
c'est pas un saint, parce que tout sportif n'est pas un saint sur le terrain.
C'est ça, si tu gagnes un peu de temps, tous les footballeurs pros gagnent du temps sur un terrain, comme il l'a fait. Moi, j'ai l'image face à Kimmich, où il met mes ballons dans les mains, il leur met par terre. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent, quoi. Mbappé en 2018, pareil contre la Belgique, il gagne du temps. Bon, bah c'est, il termine très haut dans le classement. Donc honnêtement, il y a fair play quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un gars qui va se battre, c'est pas un gars qui va. Enfin, il se bat, on va dire, il se défend plus qu'il ne se bat sur un terrain. Quand il y a des invectives et choses comme ça, pour moi, on n'est pas sur un joueur. Tu vois, bah, on parlait de Nagel de Jong, c'est pas Nagel de Jong, c'est pas Diego Costa, c'est pas.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
C'est pas ces joueurs-là, donc c'est pas Gattuso, donc c'est un peu décevant de voir parce que c'est un football qui fait plaisir, quoi. Franchement, moi en tout cas, c'est un football qui fait plaisir. Les gestes techniques, j'ai jamais compris pourquoi on sanctionnait, on allait tacler un mec qui mettait un petit pont et tout. C'est du football, quoi. T'as perdu. Quoi.
Après, je pense que le fait qu'il n'y ait plus Messi et plus Ronaldo aussi, ça redistribue les cartes et que du coup, maintenant, on va peut-être avoir aussi ces joueurs-là qui vont.
Là, t'as l'occasion de recréer une tête forte.
Ouais,
en
mais
donnant le Ballon d'Or à Vinicius, un Ballon d'Or qui retourne au Brésil en plus, un joueur du Real Madrid.
Est-ce que le fait d'avoir des têtes fortes, c'est bon pour le football? Est-ce que le fait vraiment d'avoir Messi, Ronaldo qui gagne les trophées, ça a pas aussi à un moment donné estompé certains joueurs? Après, on parle beaucoup du fait que Rodri gagne et du coup ça rend justice à des Xavi, des Iniesta ou d'autres des joueurs.
Schneider, je sais pas si ça les rend justice justement. Tu te dis, eux ils l'ont pas eu, et Rodri là, honnêtement. Ouais.
Parce que bon, c'est vrai que
respect, c'est pour Rodri,
tu regardes sur des ballons d'or de gagnés par Ronaldo et par Messi, tu te dis il y a quand même des choses qui ont été assez incroyables. Là aujourd'hui, je regarde un peu le palmarès du Ballon d'Or. Quand tu regardes, enfin, Shevchenko en 2004, il fait une bonne saison à Milan, mais au final il gagne que la Serie A. Et tu regardes
le pire c'est Nedved.
Le pire, 2003. Regarde Deco finit deuxième de ce Ballon d'Or en 2004 et au final il gagne Ligue des Champions et il gagne le championnat du Portugal qui n'est pas non plus il arrive à Chelsea, il fait des dingueries sur 3-4 mois et tu te dis quand même que ce mec-là aurait pu avoir le Ballon d'Or à ce moment-là. Et donc chaque année tu regardes un peu, là, tu parles de 2003, c'est vrai que 2003 je pense qu'un Français aurait pu l'avoir.
Bah oui, Titi. Voilà.
Oui, mais même 2006. C'est 2006, c'est pareil.
Bien sûr.
Enfin, Thierry Henry, 2003, je crois que c'est la saison des Invincibles.
Là où il fait deuxième.
2002-2003, je crois, il me semble, de mémoire. Et 2006 aussi, il fait deuxième, de mémoire aussi. Ouais. Ou dans le top 3. Mais c'est vrai que, il le gagne pas parce qu'il gagne pas la Coupe du Monde, mais sinon, c'est une saison assez incroyable qui nous sort.
Mais c'est comme des Schneider en 2010.
Exactement, même Ribéry. Ribéry. Ribéry
2013, après, si on regarde plus récent, t'as des Van Dijk, Lewandowski, t'as Haaland l'année dernière.
Non, mais c'est clair.
Ouais, c'est clair.
Voilà.
Après, Messi, sur les, pour moi, les deux derniers sont.
Ils sont un peu forcés, on va dire.
Surtout le dernier, même 2021, il gagne que la Copa América. Il fait une grosse saison individuelle quand même, il met des stats. Il y a que la Copa América et parce que c'est sa première aussi avec l'Argentine.
Après, heureusement qu'il n'était pas nominé parce que la semaine dernière, elle a claqué deux triplés.
Oui, c'est ça.
Un avec la sélection et un avec l'Inter Miami.
Il y a 2025.
Il y a la Coupe du Monde des clubs, donc ça se trouve.
Voilà, exactement. Peut-être qu'on verra l'Inter Miami s'imposer à la Coupe du Monde des clubs. On va finir avec toi, Mathéo, avec les actus internationales. Tu vas nous faire un peu réagir sur ce qui s'est passé dans la planète sport ces dernières heures.
Ouais, exactement. Déjà, je pense qu'on va revenir sur un point important, un point majeur qu'on a initié en début d'émission, qui a été le parcours du Tour de France, qui a été dévoilé aujourd'hui. Donc, Tour de France masculin et féminin, le Tour de France féminin qui passera donc à Angers et à Saumur également. Hein, c'est important de le préciser
également.
Aussi. Deux étapes dans le 49, donc ça va être super. On rappelle qu'il y a un petit peu moins d'étapes que dans le Tour de France masculin au niveau des féminines.
Oui, 9.
Voilà, 9, mais ça reste quand même un événement hyper intéressant et puis qui évolue aussi. Hein. Le Tour de France féminin, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, qui intéresse de plus en plus. Donc vous, autour de la table, est-ce que ça vous parle justement le Tour de France féminin qui passe à Angers, Faustin?
J'avoue que je l'ai jamais regardé à la télé ou quoi que ce soit, mais un événement sportif d'une telle ampleur qui passe à Angers, je pense que j'irai le voir. Il y a pas de débat. Je pense que tout le monde autour de la table essaiera de trouver un bon spot pour voir au mieux les coureuses. Les coureuses, je sais pas si ça se dit.
Peut-être si, tu peux y aller.
Les coureurs avec un E, peut-être, je sais pas. Bref, oui, c'est génial de revoir le Tour passer à Angers. et justement avec un peu de changement, ça apportera peut-être des personnes différentes et peut-être même plus de monde, on ne sait jamais.
Bah, Flo, t'en penses quoi? Tu vas t'y rendre aussi? De toute façon, je pense qu'on ici, on va tous s'y rendre.
Je suis un dingue de cyclisme, donc ouais, j'irai forcément faire un tour et de voir un peu aussi du cyclisme féminin, parce que l'avantage, c'est que maintenant, il y a quand même une meilleure couverture que par le passé. Je sais que France Télévisions fait beaucoup là-dessus. Le fait aussi d'avoir mis Marion Rousse donc à la tête du Tour de France féminin, ça joue beaucoup et ça aide beaucoup parce que c'est un nom. Donc j'ai hâte de voir. Voilà, c'est ma question du soir. J'essaie de trouver où est-ce qu'ils vont arriver, mais
parce que du coup, je me souviens plus la dernière fois où le Tour de France masculin était venu. Je crois que ça devait être ça remonte, je pense.
2016, hein. Je crois.
Ouais, 2016, ça, 8-9 ans, truc comme ça. Et c'était avenue Foch. Ouais. Pour le coup, là, à l'arrivée. À voir, ça peut être très intéressant.
Le Tour de France féminin sera l'occasion de mettre en valeur le quartier de la Doutre. La ligne d'arrivée sera positionnée en haut du boulevard Georges Clémenceau sur la place Bichon.
Bichon.
Ouais, okay. Là intéressant. Donc une petite montée en plus.
Dans la Doutre.
Voilà, dans la Doutre, c'est sympa. Voilà, exactement.
Bon, ça, parce que justement,
place Bichon.
Il y avait la dernière montée plutôt vers la rue. Boulevard Hérault.
Ouais.
Et après ils tournaient à droite.
Exactement.
Et puis ils allaient Boulevard Foch.
Ouais.
Et donc c'était plutôt intéressant d'avoir une espèce de faux plat montant à ce niveau-là.
Et ben là ils vont avoir
une vraie montée. Hein.
Une petite montée.
À pied, elle fatigue déjà un peu. Donc bon.
Mais bon, c'est bien pour le cyclisme féminin en tout cas.
Et on a également eu du coup le Tour de France masculin, le parcours qui a été dévoilé. Donc départ à Lille, on va commencer par une étape de sprint. Je sais que j'ai vu aujourd'hui l'interview dans l'équipe de Arnaud Démare qui disait vouloir se battre pour le maillot jaune. Alors bon, j'ai cliqué de base parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il me raconte Arnaud Démare, et puis au final bon bah voilà, ça fait sens plutôt. Voilà,
tu t'es fait avoir par un titre.
Exactement,
journaliste. C'est dingue, on fait partie de la profession, on se fait toujours avoir comme ça.
Ah non, c'est fou. Ouais. C'est fou, voilà. Exactement, mais sinon dans le coin, le Tour de France passera donc à Laval et puis également à Châteauroux avec un départ à Chinon. Je sais pas si toi, Flo, même Alex ou Faustin, vous avez pu voir justement ce parcours-là, parce qu'on a pas mal d'étapes de montée également, de montagne, pardon, ouais. Étapes de montée, ouais. Ça ne veut strictement rien dire. Voilà, je sais pas, vous de votre côté.
Enfin, moi déjà, ce tour déjà me plaît parce que on a un vrai. Enfin, je fais partie des puristes, des vrais tours de la France. Voilà, on a. Il y a un vrai. Voilà, ça va dans beaucoup de régions et dans beaucoup de départements. Et j'apprécie. En plus, 3 jours dans le nord de la France, forcément, c'est un truc.
Ça te plaît.
Ça me parle forcément. Avec des étapes qui vont être un peu plus différentes chaque jour dans ces 3 jours. Il y aura de tout. Il y aura vraiment l'étape pour les sprinters, mais avec aussi le lendemain des étapes avec des monts. Enfin, des monts flandriens aussi. Enfin, il y aura un peu de tout. Ça va aller sur partout dans le nord de la France et vraiment, ça va être top. Après, en plus, il y a des étapes à Caen avec le contre-la-montre qui va être vraiment un truc vraiment puriste avec du vent. Voilà, ça va être sympa. T'as le mur de Bretagne aussi, du côté de la Bretagne, mais avec vraiment ce classique intemporel du côté des Bretons. Il y a le Mont Ventoux, il y a le col de la Loze. Enfin, il y en a pour tout le monde. Quoi. Ça va à Carcassonne exactement. Il y a Super Bannière de Luchon. Enfin, voilà, c'est vraiment un Tour de France qui va vraiment être sympa à voir. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas que Pogacar.
Voilà. Il y aura les pavés ou pas du coup dans le nord?
Je sais pas.
Je en aurais parlé, je pense.
Ouais, je sais pas si il y en aura exactement. Alors après, peut-être qu'ils vont faire un ou deux secteurs, mais je suis pas sûr qu'ils fassent vraiment une étape pavée, quoi. Voilà.
Voilà. Et ben, on va peut-être prendre quelques minutes pour revenir sur les autres actus internationales, à commencer par du coup le Grand Prix du Mexique en Formule 1 qui a lieu avec la victoire de Carlos Sainz qui devance du coup l'anglais Norris et le monégasque Charles Leclerc qui ferme ce podium. Verstappen lui retombe à la 6e place après avoir été chercher un podium sur le circuit des Amériques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez consommé de la F1 vous ce week-end d'autres
plateaux? Pas du tout. Pas du tout. J'ai juste suivi de loin.
Le n'était pas que, hype par le Grand Prix du Mexique.
Bah non, il y avait quand même.
Notre expert F1 n'est pas là malheureusement. C'est vrai que.
C'est vrai.
Si écoute,
et puis il y avait Paris à ce moment-là aussi. Tu vois, il y avait le classique en même temps, donc c'est un peu plus compliqué. Après, ce que j'ai suivi, c'est qu'encore Verstappen a encore fait des siennes d'un point de vue sur la course et sur le circuit. Donc, mais ça restera toujours un problème de comportement et caractériel chez lui. Donc, mais bon, après voilà, j'ai pas vraiment suivi, donc je peux pas vraiment parler plus longuement de ce Verstappen Norris.
Bon, on va faire un dernier petit crochet rapidement vers la France et vers le top 14. Semaine 8 avec Toulouse qui continue donc son excellent début de saison en explosant les joueurs toulonnais 57-5, suivi de près donc au classement par Bordeaux-Bègles qui s'est imposé face à Pau. Du côté des autres vainqueurs, on peut également trouver Montpellier, Bayonne, le Stade Français, le Racing 92 et surtout Vannes qui s'est imposé ce week-end pour la deuxième fois de la saison face à Castres 35-28. Je sais qu'on aime beaucoup Vannes autour de la table. Est-ce qu'on est content de cette belle victoire?
On est très content de cette belle victoire et je pense qu'on en parlera un peu plus longuement la semaine prochaine avec Cédric quand il sera de retour. On se quitte là-dessus, on se quitte avec avec donc l'actu Vannes du côté du rugby sur Génération Sport et on fera forcément des émissions à venir, on vous en parlera sur les réseaux sociaux. Ciao ciao.